Et ce pourquoi? Parce que il fallait unifier les tribus, c'est même encore vrai à l'époque de Mahomet, et cette unification des tribus, c'était pas une mince affaire. Il fallait trouver des moyens qui font que les êtres humains qui sont en principe, qui appartenaient à des ethnies différentes, finissent par se réunir dans un ensemble plus grand, ne serait-ce que pour lutter contre d'autres tribus qui s'assemblaient aussi. Donc ce fonctionnement antagoniste de l'humanité a abouti à ce que le religieux et le politique se sont associés pour contrôler l'économie et l'information, parce que l'économie et l'information étaient davantage facteurs de division, ou du moins on ne savait pas contrôler l'intérêt de cette division. Des histoires mythiques comme par exemple celle d'Abel et de Caïn, où il y a en quelque sorte eu une façon de représenter les pasteurs et les agriculteurs. Il est évident que René Girard a justement insisté là-dessus. Quand Abel sacrifie un agneau et fait son feu, la fumée monte au ciel, ce qui signifie Dieu agrée Abel le pasteur. Et quand Caïn offre à Dieu des fruits et des légumes et fait son feu, la fumée ne monte pas à Dieu. Dieu n'agrée pas l'agriculteur. Donc vous voyez bien que là-dessous, il y a une vraie histoire entre pasteur et agriculteur. Bon, c'est une histoire d'il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, mais c'est une histoire des westerns, parce qu'on la retrouve ensuite au 19e siècle et même au 20e siècle. Alors, tout cela, c'est toute une période de l'humanité. Bien sûr, il y a des califes, il y a des camps, il y a des sultans, il y a des émirs, il y a des empereurs, il y a des rois. La forme est variable dans le détail, mais fondamentalement, c'est une époque de l'humanité qui a recouvert la totalité des continents, à savoir le fait qu'il y ait une forme sociétale royale impériale. Or, comme elle contrôlait l'économie et comme elle contrôlait l'information, que va-t-il se produire? Les acteurs des secteurs de l'économie et les acteurs du secteur de l'information naissante vont se révolter contre l'autoritarisme excessif des royaumes et des empires fondés politiquement, ce qui veut dire militairement et administrativement, et religieusement. Ce qui peut vouloir dire polythéisme, monothéisme, panthéisme, référence au ciel, il y a de multiples façons d'être religieux. Alors, nous allons rentrer dans la troisième période de la vie de l'humanité que nous appelons naïvement comme ça modernité. Ça montre bien qu'on veut lui donner une valeur supplémentaire. Bon, maintenant c'est dépassé, mais enfin, bon, ça a eu son temps. Eh bien, cette modernité, c'est une modernité du national. Et à ce moment-là, les secteurs ou les acteurs des secteurs qui dominent ne sont plus ceux du religieux et du politique. Ils ont été fortement critiqués, ils étaient associés, ils se sont dissociés. Et du fait de cette dissociation, dont l'avènement du protestantisme est un grand moment, hein, Henri VIII qui se libère du catholicisme et fonde l'anglicanisme, c'est un moment qui va dans le même sens. Bref, le politique s'est dissocié du religieux et on a préparé, l'humanité a préparé sans le savoir, le passage des royaumes et des empires aux nations. Alors que nous n'avons pas fini d'avoir sur la terre encore des royaumes et des empires, bien entendu. Mais toute une partie de l'humanité qui se dit moderne est passée au national. Or, il se trouve qu'au moment où les êtres humains, les acteurs humains se centrent sur autre chose, en l'occurrence l'économie, et d'ailleurs ils inventent une discipline qui dit la vérité, elle s'appelle l'économie politique. Elle n'existait pas avant l'économie politique, elle existe à partir du moment où les royaumes et les empires deviennent des nations marchandes, industrielles, ce que nous déplorons de ne pas être capables d'être encore aujourd'hui. Parce que nous sommes passés à la mondialisation financière, c'est-à-dire à une version de l'informationnel économique mondial qui est une toute nouvelle version et qui introduit une quatrième période de la vie de l'humanité. Mais alors, que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, et je regrette, mais nous entendrons Chantal Delsol cet après-midi, Et ça sera une voix complètement différente de ce que nous avons entendu jusqu'ici, puisque ça sera une voix, ça aura des rapports à ce que M. Adjouani a dit, c'est-à-dire une voix qui rappellera que peut-être nous faisons un peu trop rapidement bon compte du religieux. J'y reviendrai en terminant. Pour le moment, je m'occupe seulement du fait que l'économie et l'information sont au pouvoir, pas du tout le politique et le religieux. Et d'ailleurs, nous voyons bien où l'économie récemment nous a menés. Et alors à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que le politique est sommé en quelque sorte de venir réparer certaines erreurs de l'économie. Et mais l'économie continue à faire les mêmes erreurs parce que c'est quand même lui qui domine par rapport au politique. On est dans un imbroglio, une embrouille en bon français, une embrouille et une magouille considérable. Mais elle est très claire. Nous ne sommes plus dans le religieux et le politique dominant comme dans les royaumes et les empires. Nous sommes dans l'économique et l'informationnel associé dominant. Dès lors, que s'est-il passé? Il s'est passé que au moment où le religieux... Je voudrais pas que ça soit mal compris ce que je vais dire. Je suis dans une description, je ne suis pas dans la délivrance du sens de cette description. Au moment où le religieux s'est trouvé manifestement en grande perte de vitesse et où le politique a repris le pouvoir pour un court temps, mais sur une fin de règne, car l'économique était déjà là avec l'information, nous avons eu les pires choses. Nous avons eu des Staline, nous avons eu des Hitler, nous avons eu le fascisme, le nazisme, le stalinisme, nous avons eu la Shoah. Alors attention, bémol, coup de frein. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le religieux qui a produit ça? Alors bon, certains pourraient argumenter pour montrer que c'est une forme de religieux. Si on définit le religieux à la façon dont ça vous arrange pour le raisonnement, moi je veux bien, parce que le religieux n'est pas défini. J'ai oublié de faire une parenthèse, et je la fais tout de suite. À aucun moment je ne pense que personne ne peut détenir la définition du politique, du religieux, de l'économie et de l'information. Pour une raison simple, ce sont des êtres humains qui vivent, ce sont eux qui inventent la religion. La religion est toujours à inventer, et c'est ce que pense par exemple un Abdennour Midar dans la façon dont il traite un islam tout à fait futuriste. Eh bien, la religion est à inventer, la politique est en cours d'invention encore aussi, avec les malheurs que lui fait l'économie, mais l'économie aussi est en cours d'invention. J'ai chez moi un dictionnaire qui s'appelle « Dictionnaire de l'autre économie ». Donc il y a bien des gens qui se mobilisent pour quelque chose d'autre sous le nom d'économie. Et l'information, c'est pareil. Est-ce que c'est l'information médiatique, scientifique, technique? C'est quoi l'information? Donc gardons-nous de croire que nous savons ce que sont les choses que nous sommes en train d'inventer. Et ayons le courage, et c'est là où le militantisme n'est pas quelque chose de secondaire, mais quelque chose de primordial, j'y crois vraiment, et nous n'assumons pas le type de militantisme dont nous avons besoin. Très difficile. Eh bien, ce militantisme, il doit être un militantisme de l'avenir de l'humanité, un militantisme qui fait fond sur les possibilités qui sont celles de l'être humain et possibilité qu'il déjoue continuellement par toute une série de difficultés, parce que les phénomènes de centration dont j'ai parlé ne vont jamais disparaître, donc nous nous centrons les uns ici, les autres là. Est-ce qu'il y a une possibilité de nous faire un raisonnement au moins qui nous encouragerait à espérer autre chose? Je n'ai pas fait allusion à Edgar Morin, c'est dommage, je le fais très souvent. Et là, j'y pense parce qu'il parle du quadrimoteur fou. Le quadrimoteur fou d'Edgar Morin, c'est effectivement notre religion, notre économie, notre information, notre politique qui sont en train de dérailler. Donc, c'est à nous de savoir comment ils peuvent se faire entre eux des correctifs. Si le religieux, le politique, l'économie et l'information, qui sont nos quatre grands secteurs d'activité toujours à l'œuvre, sont en mesure de se corriger mutuellement, alors voilà, le véritable fondement de la laïcité future serait là. Autrement dit, La laïcité, moi j'étais un peu comme Pénard Huysse il y a 30 ans, il n'y a pas si longtemps, lui il y a longtemps, moi c'est plus récemment, la laïcité n'est pas un problème qui me souciait beaucoup. Je me suis rendu compte en travaillant sur la question depuis peu que j'avais tort, parce que la laïcité est d'abord un symbole extraordinaire et un ensemble de symptômes de nos échecs humains non moins extraordinaires. Et ce qui m'oblige à faire en sorte de nous rendre compte que si la laïcité est habituellement baptisée comme séparation de la religion, de l'Église et de l'État, j'aime mieux, ou de la religion et du politique, il faut, et j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait eu cette critique, il ne faut pas mettre tout sur la séparation, il faut travailler sur séparation et reliance, c'est-à-dire... J'ai pas le temps de développer ce point. Il faut absolument se garder d'avoir un esprit identitaire qui n'est pas corrigé par un esprit antagoniste. Et c'est ce que je suis en train de dire. Séparation, oui, mais reliance, oui. Séparation et reliance. Donc, chaque fois que nous aurons une solution qui sera purement identitaire et qui n'intégrera pas l'antagoniste, nous sommes en train de commettre une erreur de centration. Donc, corrigeons cette erreur, faisons la distance critique dont on nous a parlé hier et relions de nouveau ce qui doit être relié et séparons ce qui doit être séparé. Mais séparer et relier ne sont pas deux choses qui sont séparées, elles sont séparées et reliées. C'est ça la pensée antagoniste dans toute sa profondeur. Alors, séparer, relier le politique et le religieux, oui. Séparer, relier le politique et l'économique, oui. Séparer le religieux et l'information est relié, oui. Mais les quatre grands secteurs relèvent de la laïcité. Tous les quatre relèvent de la laïcité. C'est pas une élucubration de moi, simple Jacques de Morgon. Je lis par exemple un auteur comme Jean-Claude Guibaud qui parle de la laïcisation nécessaire de l'information. Et on en a vu déjà un aperçu hier. Un Jean-Michel Beignet, qui est un philosophe reconnu, qui a écrit beaucoup de choses bien intéressantes, parle de la nécessité d'une laïcisation de l'économique. Jean-Claude Guibaud dit « L'économie se croit une science, mais elle est bien plus une religion ». Et là, il faudrait que je dise un mot pour ne pas rallonger les choses très rapidement. Quand nous passons d'un système sociétal à un autre et donc appuyé sur d'autres secteurs, à chaque fois les secteurs dominants commettent ce que j'appellerais volontiers un vol du sacré. Donc le religieux a volé le sacré à ce qui précédait le religieux, le politique a volé le sacré au religieux, Dieu sait si nos nations marchandes se sont rendues sacrées au point de faire les boucheries de 14-18 et la Shoah de 39-45, donc le politique s'est rendu sacré. L'économie est en train de se rendre sacrée depuis un sacré bout de temps avec la main invisible, hein, comme si elle était Dieu, et l'information se prend pour sacrée, le pape du 20h, etc., la grande messe des sports, etc., on n'en finirait pas. Donc, à chaque fois, une centration de certains acteurs dans un certain domaine introduit une cléricature, hein, le pape du 20h introduit une cléricature, et cette cléricature vole le sacré aux autres et se prétend seul sacré. Donc, j'ai compris que la laïcité avait un immense domaine devant elle, vraiment beaucoup de choses à faire, et qu'il faut commencer, comme l'a fait Chantal, par restaurer le véritable sens. La laïcité, c'est genre assez brillant, c'est très très important, et ça, tout le monde l'a reconnu. Donc voilà, je crois qu'on a un immense travail à faire, et j'espère ne pas vous avoir découragé.